Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, avec vous Marion Calais, Julien Cellier, bonsoir.
Bonsoir Myriam.
Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, 2 heures à votre service, votre point complet, précis sur l'actualité avec à la une le témoignage choc d'une auditrice de RTL. Nadia nous a appelé au 3210 à la mi-journée, au moment où l'église est secouée de nouveau par des affaires de pédophilie, elle a raconté pour la première fois avoir été violée il y a 50 ans par un prêtre.
Moi je vais t'aider pour que le Saint-Esprit justement puisse te protéger et je vais pénétrer le Saint-Esprit par ton corps. Et il m'a basculé sur le banc et il a défait ma culotte, il m'a mis la main sur la bouche et il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne ni à mes parents.
Dans un quart d'heure, vous allez entendre le témoignage bouleversant de Nadia et nous le mettrons en perspective avec nos spécialistes justice et religion ici à la rédaction. À la une également, Marion.
Conflit d'intérêts, paradis fiscaux, argent de ses enfants. La ministre Agnès Pannier-Runacher se met de s'expliquer à l'Assemblée. Une patiente est-elle morte de faim à l'hôpital de Dijon? Sa famille accuse et se confie à RTL. Et puis vous entendrez qu'on ne ferme pas simplement des écoles à la campagne. Une dizaine de lycées vont disparaître à Paris. Faute d'élèves.
La brigade RTL avec notre sondage Odoxa RTL tout frais avant la liste de Deschamps demain pour le Mondial. Vous réclamez Giroud en équipe de France. À suivre aussi menaces, intimidations, les dessous d'une élection sous tension aux États-Unis. Et puis laissez-vous tenter dernière avec le retour de la saga Black Panther au cinéma. 18h40, on va défaire le monde. L'info différemment, autrement avec Cyprien Sini et la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le programme.
Ce soir, vous allez découvrir le business sordide des passeurs, traite des êtres humains, vieux rafiaux, comment cette véritable mafia prospère sur la misère. Au menu également, le Qatar qui s'enlise dans les polémiques et vous saurez enfin combien on peut mettre de personnes dans une rame de métro. Je vous préviens, c'est beaucoup.
On se pose souvent la question. 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont et puis le temps avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain.
Perturbé du sud-ouest aux frontières de l'Est.
À tout à l'heure.
RTL Soir,
le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et la ministre de la Transition énergétique sommée donc de s'expliquer après les révélations du site d'investigation Disclose.
Disclose qui explique que les enfants d'Agnès Pannier-Runacher ont des parts dans une société créée par son père, ancien dirigeant d'une société pétrolière étrangère. Un patrimoine dont les fonds seraient liés à des paradis fiscaux, Guernesey et Delaware, notamment des révélations qui posent la question du conflit d'intérêts et de la transparence, puisque ces parts n'ont jamais été mentionnées par la ministre. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a donc ouvert une enquête.
Et donc, le sujet s'est invité à l'Assemblée nationale où vous êtes pour RTL. Marie-Bénédicte Allaire, bonsoir.
Bonsoir.
Et où Agnès Pannier-Runacher s'est défendue de tout manquement.
Oui, une ministre ciblée par la gauche, le socialiste Arthur Delaporte, en appelle à Elisabeth Borne.
Ma question est simple, Madame la Première Ministre. Aviez-vous connaissance de ces informations quand vous l'avez nommée ministre de la Transition écologique? Si ces informations sont confirmées, quelles conséquences en tirez-vous sur l'exercice des fonctions de votre ministre?
C'est Agnès Pannier-Runacher qui répond. Tout est légal, assure-t-elle. Et oui, son père a bien travaillé pour le pétrolier Perenco, une société étrangère.
Je n'ai donc pas eu, dans le cadre de mes fonctions de ministre, à connaître d'activités de ce groupe. Mon père, ma mère et mes enfants n'ont pas choisi une vie publique. Vous comprendrez bien que mon devoir est de les protéger.
Mais pour l'écologiste Cyrielle Châtelain, la ministre n'a pas été transparente.
Madame la Première Ministre, pouvez-vous nous confirmer qu'elle a sciemment omis cette information lors de ses déclarations d'intérêt et de patrimoine successifs? Et dans ce cadre, lui renouvelez-vous votre confiance?
Nous ne sommes pas dans un tribunal, répond alors Elisabeth Borne, et de rappeler qu'au Sénat, le projet sur les énergies renouvelables vient d'être voté par les écologistes.
Et je vous confirme que nous souhaitons travailler avec vous pour améliorer encore ce texte. C'est ce qui intéresse les Français et c'est ce sur quoi mon gouvernement est mobilisé.
Mais le gouvernement est-il vraiment serein? Agnès Pannier-Runacher a en tout cas annulé une interview dans RTL Soir.
Explication signée Marie-Bénédicte Allaire à l'Assemblée pour RTL.
RTL Soir.
Que s'est-il passé en août dernier à l'hôpital de Dijon? Ce mois-là, une patiente de 77 ans, dans l'attente d'une opération ordinaire, décède. Aujourd'hui, sa famille accuse l'établissement de ne pas lui avoir donné à manger pendant plusieurs jours. Ses enfants ont porté plainte. Vous les avez rencontrés pour RTL, Frédéric Perruche.
Oui, Muriel, les gens qui ne comprennent toujours pas comment leur maman, âgée de 77 ans, a pu mourir à l'hôpital de déshydratation en raison de plusieurs reports d'intervention chirurgicale. 4 jours sans rien manger ni boire du 25 au 28 août avant d'être transférée d'urgence en réanimation.
Même elle, elle a appelé à l'aide pour qu'on lui donne à manger. Nous, on n'y croyait même pas d'ailleurs. Là. Parce que tous les jours, elle nous disait, il ne me donne pas à manger, il ne me donne pas à boire. Et on n'y a jamais cru. Jusqu'au moment où d'un coup, elle a sombré et puis que là, on s'est soucié d'elle et puis mais c'était trop tard.
Elle était déshydratée totalement?
Ah bah oui, complètement, oui. D'ailleurs, ils nous l'ont dit en réanimation, ils l'ont reçue déshydratée, quoi, voilà.
Après des jours de silence, la direction du CHU de Dijon s'est enfin exprimée il y a une petite heure et se défend de toute négligence. Emmanuel Boulot, l'un des chefs de service de l'hôpital.
Cette patiente a effectivement été maintenue à jeun plusieurs jours successifs, mais je peux vous assurer, et cela a été contrôlé, c'est qu'après chaque report successif, des repas ont été commandés, des repas ont été distribués, et ces faits ont été tracés dans le dossier.
Une enquête a été ouverte il y a 2 mois et les résultats de l'autopsie pourraient permettre de mieux comprendre les circonstances du décès.
Au lendemain des révélations du cardinal Ricard, conduite répréhensible avouée avec une jeune fille lorsqu'il y était curé il y a 35 ans, le parquet de Marseille a ordonné aujourd'hui l'ouverture d'une enquête préliminaire.
Et puis RTL vous le révélait cet après-midi, le détail des prévisions de trafic pour jeudi à la RATP. Courage, la moitié des lignes de métro seront fermées.
Et les autres ne fonctionneront qu'aux heures de pointe à cause de cette grève pour les salaires et les conditions de travail sur le RER A et B. Un train sur deux aux heures les plus fréquenté et pour les bus 2 sur 3 en circulation.
RTL Soir 18h06. En Amérique, on ne renonce jamais. Ou quand Joe Biden appelle les Américains à faire entendre leur voix en ce jour d'élection.
Les midterms en cours pour renouveler une partie du Congrès au sein duquel les Républicains pourraient faire une percée, mais c'est sans doute bien plus que le Congrès qui se joue pour cette électrice rencontrée à la sortie d'un bureau de vote à New York par le correspondant de RTL, Lionel Gendron.
C'est une période très inquiétante. Il y a tant de haine. C'est la première fois que je ressens autant de division, que ce soit dans ma famille ou avec mes amis. Personnellement, je n'ai jamais eu à m'inquiéter si je pouvais avorter ou pas, mais j'ai le sentiment que ces élections vont changer pas seulement les 4 prochaines années, mais notre futur, et je ne veux pas régresser. J'ai l'impression que c'est le scrutin le plus important de ma vie.
Les États-Unis qui, malgré l'incertitude de ces élections, dont on connaîtra les premiers résultats au cours de la nuit prochaine, ont promis aujourd'hui à la COP27 en Égypte de rester mobilisés pour lutter contre le réchauffement climatique. Joe Biden se rendra sur place vendredi.
Et la COP qui voit avancer aujourd'hui un vieux projet lancé il y a 15 ans. Virginie Garin, vous êtes l'envoyée spéciale de RTL en Égypte. Ce projet, c'est celui d'une muraille verte pour freiner l'avancée du désert du Sahara.
Oui, cette muraille verte consiste à planter des milliards d'arbres d'un bout à l'autre de l'Afrique, d'est en ouest, de Dakar à Djibouti, en passant par le Niger. C'est le pays de Boubacar Djibo, il est consultant en agriculture.
Le désert avance parce qu'il y a beaucoup plus de sécheresse. Le désert avance parce que les terres ne sont plus habitées. Quand une terre est abandonnée, elle se dégrade.
Au Niger, 20% de la grande muraille a déjà été plantée. Les arbres fixent la terre et permettent de restaurer les sols.
Nos communautés rurales vivent de l'agriculture et qui dit agriculture parle de terre. Et ce projet de grande muraille verte est la solution d'ailleurs la plus facile pour effectivement reconstruire la terre et faire en sorte que la terre puisse donner ses services.
Cette muraille est un vieux projet des pays africains, mais il manquait l'argent pour le réaliser. Et il a été relancé par Emmanuel Macron il y a 2 ans lors d'un sommet sur la planète en France. 19 milliards en tout vont être consacrés avec l'aide des pays du Nord. 2 milliards et demi servent déjà sur le terrain à planter des arbres.
Emmanuel Macron, qui de retour de la COP, a reçu aujourd'hui à l'Élysée les industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et cette offre de donnant-donnant, si vous doublez vos efforts, nous doublerons l'aide à la décarbonation, soit 10 milliards d'euros.
Allez, votre journal continue dans un instant dans RTL Soir. Paris et la campagne, même combat, vous allez l'entendre. Dans la capitale aussi, faute d'élèves, des lycées vont fermer à la rentrée prochaine. A tout de suite sur RTL.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Et donc, l'Île-de-France s'apprête à fermer une dizaine de lycées faute d'élèves.
7 établissements ne rouvriront pas à la rentrée prochaine à Paris. 2 de plus l'année suivante, des lycées professionnels en majorité. Avec une inquiétude, Arthur Pereira, pour la continuité de la formation des élèves concernés.
Oui, et ils sont 780 lycéens directement touchés par ces fermetures d'établissements jugées trop vétustes, remplies à seulement 20% de leur capacité. Impossible de garder ces lycées ouverts, explique Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, au siège de la collectivité.
Nous allons fermer ces petits lycées vétustes et nous allons transférer les 780 lycéens dans les grands lycées rénovés, confortables, pour leur donner beaucoup plus de perspectives.
À l'extérieur, parents, élèves et professeurs ne décolèrent pas. Pour aller à ses cours de danse, Fémia fera une heure de métro en plus.
On nous déménage ailleurs, donc c'est vrai que on est tous en colère en fait, parce qu'on nous a menti en quelque sorte. Et puis, est-ce qu'on va pouvoir continuer aussi notre pratique artistique à côté ? Enfin, en fait, on a plein de questions sans réponse et ça nous angoisse.
Yann est professeur de SVT dans le même lycée, entouré de ses élèves. Il est fataliste.
On le sait déjà, on a beaucoup d'élèves qui ne viendront pas au lycée Bergson et qui iront dans le privé parce que les parents ont les moyens. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils arrêteront la musique ou ils arrêteront la danse, ils arrêteront leur passion.
De son côté, la région a assuré qu'aucun élève ne sera laissé sur le carreau. Aujourd'hui, il existe 8000 places vacantes dans les lycées de la capitale.
Un reportage signé Arthur Pereira, merci. À Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, la reprise des travaux aujourd'hui sur le chantier de la retenue d'eau contestée il y a 10 jours par une manifestation. Les opposants promettent déjà l'organisation d'un nouveau rassemblement encore plus important. Et puis un hommage ce soir après le sacre de Caroline Garcia la nuit dernière au Masters. Celui d'une ancienne numéro 1 mondiale.
Devenue depuis patronne de Roland-Garros, elle était jusqu'ici la seule Française à avoir gagné un Masters. Elles sont désormais 2. J'ai nommé Amélie Mauresmo qui salue le parcours de la joueuse lyonnaise passée quand même, on le rappelle, cette année de la 75e à la 4e place au classement WTA.
Il y a peu de personnes en début d'année qui auraient imaginé ce scénario-là pour Caro, c'est sûr. Le Master, c'est évidemment une compétition très difficile à remporter. Je dirais que c'est quand même moins difficile à remporter qu'un Grand Chelem pour deux raisons. Probablement, la première, la plus évidente, c'est que tu as droit à l'erreur, ce qui n'est pas le cas en Grand Chelem. Et la deuxième, qui est probablement moins évidente, c'est que tu es sur une semaine au lieu de deux semaines. Donc, quand tu gamberges un petit peu, etc., la gestion sur une semaine, elle est plus simple que sur une quinzaine. Mais on l'a vu de toute façon à l'US Open déjà. Son jeu, de toute façon, on le sait depuis très longtemps. On le sait depuis 10 ans, même plus. Qu'effectivement, elle a le potentiel pour aller chercher un grand chelem.
Ouais,
c'est sûr.
Caroline Garcia, qui était demi-finaliste à l'US Open et qui disputera vendredi et samedi les barrages de la Billie Jean King Cup, nouvelle formule de la Fed Cup, barrage contre les Pays-Bas.
Pas facile à dire, non. Ça. Billie Jean King
Cup. Ouais, faut bien les séparer.
DJ K Cup. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy.
Perturbé du sud-ouest.
Merci,
aux frontières
Peggy.
De l'est.
Au revoir.
Mais c'est pas pour tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, on aura de l'eau. Alors, avec. De faibles pluies le matin entre le sud-ouest et les frontières de l'Est, sauf du côté de la vallée du Rhône, où là, ce sera fortement pluvieux toute la journée avec des averses orageuses. Et du sud-ouest aux frontières de l'Est, les pluies vont s'intensifier dans l'après-midi. Et ailleurs, sur les régions du Nord, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne entre nuages éclaircis, quelques averses, des averses plus marquées sur les bords de Manche l'après-midi. Ce sera beaucoup plus lumineux le matin, pardon, et ce sera beaucoup plus lumineux l'après-midi, surtout sur l'ouest. Dans le sud-est, on a des averses orageuses toute la journée et il n'y a que le Languedoc et la Corse qui resteront à l'écart de ce mauvais temps, avec de belles éclaircies, le tout sous des températures encore largement au-dessus des normales, de 13 à Grenoble à 23 à Ajaccio, 14 à Cherbourg, 15 à Lille, 16 à Paris, 19 à Nice et 22 à Perpignan.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et la brigade qui tâte le pouls de la nation en quelque sorte maintenant à 2 semaines de la Coupe du Monde de foot. Quelle est votre liste des bleus ? Est-ce que vous croyez à un nouveau titre ? On va étudier les réponses de notre sondage RTL Doxa, sondage tout frais avec Philippe Sanfourche qui nous a rejoint. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Alors les Français interrogés ont choisi leur joueur en attendant demain la fameuse liste de Didier Deschamps et il y a un attaquant qui est plébiscité.
Oui, c'est la Giroumania. Les Français amateurs de foot ont été sondés en effet au sujet des joueurs en balance, hein, puisqu'il est évidemment acquis que Karim Benzema ou Kylian Mbappé sont partants certains. Et parmi les Dembélé, Ben Yedder ou Giroud, eh bien le champion du monde, meilleur buteur des Bleus en activité, arrive largement en tête, espéré par, tenez-vous bien, 88% des Français interrogés, devant Ousmane Dembélé. 80%, c'est très bien également. En revanche, Wissam Ben Yedder est seulement à 52%.
Alors, en revanche, les Français veulent des Bleus qui sont en forme, pas des Bleus sur une jambe.
Oui, alors ça, c'est un des grands enseignements de ce sondage. Le pédigré ne suffit pas à rassurer les sondés qui préfèrent, et dans une assez large majorité, 72%, que Didier Deschamps se passe carrément de joueurs cadres qui seraient à peine sortis de blessure, comme Raphaël Varane ou Lucas Hernandez, s'ils ne sont pas au meilleur de leur forme. Autre illustration que les supporters des Bleus sont capables de tourner la page, finalement, de 2018, les absences d'N'Golo Kanté et Paul Pogba, estimées handicapantes par seulement la moitié des sondés, l'autre moitié faisant confiance aux autres milieux de terrain des Bleus.
Alors, venons-en maintenant au petit jeu des pronostics dans ce sondage RTL Odoxa Winamax. Les Français sont de moins en moins confiants à l'approche du Mondial. C'est même très marqué, d'ailleurs.
Ah oui, là, on atteint un seuil plancher. 25% de réponses positives. Ça veut dire que seul un Français sur quatre voit les Bleus conserver leur titre de champion du monde. C'est 17 points de moins qu'il y a un an. Et si on se recentre sur les connaisseurs, hein, les fans de foot, la dynamique est encore plus mauvaise. Moins 21 points par rapport à octobre 2021. Les trois défaites récentes sur juin et septembre sont évidemment passées par là et ont laissé des traces.
La Brigade RTL avec Philippe Sanfourche ce soir, à la veille donc de la liste de Didier Deschamps. RTL Soir va continuer dans quelques secondes. Vous avez peut-être raté à la mi-journée le témoignage bouleversant vraiment de Nadia. Au moment où les affaires de pédophilie secouent de nouveau l'église, et bien cette auditrice a appelé RTL. Et pour la première fois, elle a raconté avoir été victime d'un viol de prêtre il y a plus de 50 ans. Vous allez l'entendre juste après ça. Restez avec nous, à tout de suite.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h15.
18h, 19h15,
RTL Soir,
Julien Cellier.
18h20, bonne fin de journée, RTL Soir toujours à vos côtés. Et nous voulions ce soir vous faire écouter, réécouter peut-être ce témoignage puissant, bouleversant, celui de Nadia, une auditrice de RTL Midi. À la mi-journée, avec Pascal Pro sur RTL, nous avons abordé à l'antenne cette déflagration. 11 évêques ou ex-évêques mis en cause dans des affaires de violences sexuelles, on en parlait dans l'émission dès hier soir. Un séisme de plus pour l'Église et une parole qui se libère toujours plus. En apprenant cette nouvelle, Nadia a décidé d'appeler RTL au 3210. Elle a 65 ans aujourd'hui. Elle affirme avoir été violée par un prêtre quand elle était enfant, à l'âge de 12 ans, et elle a raconté, donc à la mi-journée sur RTL, pour la première fois, cette terrible agression.
Qui m'a fait venir dans l'église parce que je devais me confesser soi-disant pour la confirmation. Et il m'a forcé à rentrer dans la sacristie en me disant que je ne devais pas être vue de personne. Et il m'a dit, Nadia, tu es choisie par Dieu, mais tu dois être pure, car aucun, je vous explique telles les choses sont passées, parce que ça me fait toujours mal. Il m'a dit, voilà, les garçons voudront te toucher, mais Dieu t'a touché, tu dois rester pure et sainte. Voilà, ils vont te toucher donc la tête, ils vont te toucher la bouche. Il m'a embrassé la bouche. Il m'a touché, donc à l'époque, j'étais une enfant, j'étais plate comme une galette. Et voilà, ils vont te toucher aussi la poitrine. Enfin, faut pas les laisser faire. Après, il est descendu là, le long de mes fesses. Il m'a dit, faut pas non plus laisser toucher ça. Il faut pas non plus. Il a mis sa main dans ma culotte. Il a touché mon sexe en me disant, il faut pas non plus que les garçons touchent ça. Mais moi, je vais t'aider pour que le Saint-Esprit justement puisse te protéger, et je vais te pénétrer le Saint-Esprit par ton corps. Et il m'a basculé sur le banc qui était devant la statue de Saint-Joseph, et il a défait ma culotte et il s'est mis à genoux et il m'a pénétré par trois fois. J'avais mal. Il m'a mis la main sur la bouche et après il s'est rhabillé et il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne ni à mes parents, parce que sinon Dieu et Jésus tueraient mes parents et toute ma famille. J'ai gardé ce secret tout le temps et ça fait mal. Vous pouvez pas vous imaginer, parce que j'ai 65 ans, je m'en rappelle toujours. On est comme si on était des accusés. On est salis à vie. Et puis après, on a été faire un pèlerinage donc avec lui dans une espèce de couvent d'hommes où il y a des curés. Il nous a laissés devant la statue de Saint-Joseph. Il m'a regardé d'un air mais vraiment méchant. Après, à la suite de ça, ils ont pris 7-8 garçons qui étaient là présents. Ils les ont fait rentrer dans une cour où il y avait comme un jeu de basketball. Et les gars, 3 prêtres, dont lui, sont venus. Mais là, ils étaient en civil. Ils ont mis un ballon de football dans leurs bras et ils ont dit aux gamins de les suivre dans une petite forêt. Les petits garçons sont tous partis, les 8. Mais un est revenu et hurlait en disant « Je ne veux pas jouer à leur jeu, je ne veux pas jouer à leur jeu ». Et quelques jours après, il y a la police. Donc à l'époque, c'était avec des képis. Ils sont venus voir mon père. Mais ils voient mon père, il dit « Ils veulent te voir, t'as volé quelque chose ». Mais je dis « Non, j'ai rien fait ». Et le policier me dit « Voilà, est-ce que tu es parti à tel endroit ?» Donc il m'explique, il dit « Tu sais, c'est secret, t'inquiète pas, tout est écrit, on ne dira rien à personne ». J'ai dit « Oui, on a été là ». Il dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai expliqué avec les petits garçons. Il dit « Mais toi, j'osais pas parler parce que j'avais peur que mon père me tape, parce que c'était terrible si mon père le savait ». Et du coup, c'est une femme qui m'a appris à part, qui était aussi une gendarmette, et qui m'a dit « Vas-y, parle, dis-moi ce qui s'est passé ». Je lui ai expliqué que le curé m'avait violée. Et du coup, donc, elle a dit « Bon, ne t'inquiète pas, c'est notre secret, je te promets, on ne dira rien à personne ». Et quelques jours après, on a entendu parler qu'il avait été arrêté par la police et qu'il avait été transmis ailleurs. Et du coup, la femme d'à côté, qui était une vieille voisine, qui justement était très, très branchée, qui est venue me voir en me disant « C'est de ta faute que le curé est parti, tu n'es qu'une saloperie, tu n'es qu'une charogne, c'est de ta faute, c'est de ta faute, Dieu te punira ». Et j'ai subi ça tout le temps, jusqu'à temps que je parte du village. Voilà mon témoignage que je voulais dire, parce que il y a aussi ces 7 petits garçons qui se reconnaîtront s'ils écoutent la radio. On était ensemble, et ces petits garçons, le 8e n'a pas été violé, mais les autres, oui, ils ont été violés ainsi que moi. Voilà. Quand je les vois en soutane et tout seul, je les vois comment qu'ils sont faits et tout. Je peux plus les prélégrer, je peux plus, même pas un évêque ni un cardinal, même pas le pape, parce que ces gens-là sont tous les mêmes. Voilà ce que je voulais dire.
Témoignage donc bouleversant, celui de Nadia, dont les auditeurs ont la parole sur RTL à la mi-journée. En studio avec nous maintenant, Guillaume Chies de notre service police-justice et Marie Guerrier qui a suivi ces dossiers de pédophilie dans l'église sur ces 4 dernières années. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Guillaume, depuis ce témoignage, vous avez eu de nouveau cet après-midi Nadia longuement au téléphone, hors antenne. Et elle vous a raconté le contexte, son histoire.
Oui, ce viol a eu lieu en 1968 ou 1969. Nadia n'est plus très sûre. À l'époque, elle habitait un petit village au nord de Soissons, dans l'Aisne. Elle raconte son viol, évidemment, mais aussi cette scène qui s'est passée quelques semaines plus tard. Lors d'une sortie, 8 autres garçons de son âge auraient été abusés par le même curé. Nadia se rappelle avoir été interrogée par les gendarmes à ce sujet, comme tous les autres enfants présents. Le prêtre mis en cause, lui, a été muté par sa hiérarchie quelques années plus tard, à 70 km de là, dans le sud du département. Il est décédé il y a 9 ans, en 2013, et lorsqu'on fouille dans les archives, un détail fait froid dans le dos. À sa mort, l'actuel curé de la paroisse a salué un homme qui, je cite, était attentif à être présent auprès des enfants et des jeunes.
Nadia, vous l'avez dit, a échangé avec les gendarmes, mais elle ne dépose pas plainte.
Non, elle le dit, à l'époque, elle a honte, elle ne veut pas être montrée du doigt, elle a peur de l'image que ça renverrait à ses parents ou à tout le village. Et même aujourd'hui, quand je lui demande s'il y a défaut d'action judiciaire, puisque l'abbé est décédé, elle souhaite signaler ce viol aux autorités catholiques, sa réponse est nette, non, jamais, elle n'a évidemment plus confiance dans l'institution.
Alors c'est évidemment un témoignage qui nous bouleverse, mais il est très difficile de vérifier ce que dit Nadia.
Oui, nous avons sollicité le diocèse de Soissons. La demande est remontée jusqu'à l'évêque et ils promettent de se renseigner sur ces accusations. Nous avons aussi appelé les villages dans lesquels l'abbé a officié. Personne n'a souvenir de cette histoire. Idem au niveau des institutions judiciaires.
Marie, je me tourne vers vous. Depuis que la parole s'est libérée dans l'église, le clergé part du principe que des témoignages comme celui de Nadia sont vrais, que Nadia dit la vérité.
Oui, et la consigne première, primordiale, c'est d'écouter les victimes. Il y a une cellule d'écoute par diocèse, mais surtout, l'Église a mis en place une instance nationale indépendante, l'INIR, auprès de laquelle les personnes victimes peuvent se manifester. Elles pourront avoir des échanges avec des spécialistes de l'écoute et de la gestion des traumas. Ensuite, l'instance va s'adresser à l'évêque du diocèse où se sont produits les faits pour confirmer la vraisemblance, le nom du prêtre, les lieux, les dates, même si c'est très ancien, même si c'est prescrit, même si l'agresseur est mort. Et puis, in fine, la personne victime pourra demander une réparation financière, notamment. L'Église s'est engagée donc à reconnaître la souffrance des victimes et à réparer ce qui peut l'être.
Nadia nous a raconté que c'est l'accumulation de témoignages qui finalement l'a poussée, elle aussi, à sortir de son silence, à appeler RTL aujourd'hui. C'est souvent le cas, Marie, la parole, elle se libère très progressivement.
Oui, quand Jean-Marc Sauvé présidait la commission d'enquête sur les abus dans l'Église, il le disait, hein, à chaque fois qu'il en parlait dans les médias, ça suscitait de nouveaux témoignages. À chaque fois qu'une affaire éclatait dans la presse, il y avait de nouveaux témoignages. Il y a toujours un élément déclencheur, je l'ai constaté au fil des reportages et des rencontres depuis 4 ans. Très souvent, ce sont des faits anciens, très anciens, qui remontent à la surface, dont les victimes n'avaient encore jamais parlé. Elles ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, et puis tout d'un coup, ça sort comme un flot, comme si elles émergeaient d'une longue léthargie, brutalement, violemment, douloureusement.
Merci Marie, merci Guillaume de nous avoir éclairé, d'avoir mis en perspective ce soir le témoignage très puissant de Nadia sur RTL. On va marquer une petite pause et l'info continue dans RTL Soir. Vos dessous de l'actu, menace de mort, intimidation, élection demi-mandat sous très haute tension aux États-Unis en ce moment même, et puis laissez-vous tenter dernière avec la suite de la saga Black Panther demain au cinéma. A tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
18h32 minutes, RTL Soir à vos côtés.
RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
Et le rappel des trois titres à retenir dans l'actualité, Marion.
Allégations fausses et calomnieuses. La ministre Agnès Pannier-Runacher réagit aux révélations du média Disclose sur ses parts détenues par ses enfants dans une société dont les fonds seraient en partie basés dans des paradis fiscaux et liés à une société pétrolière étrangère anciennement dirigée par son père. Des parts jamais mentionnées par la ministre, qui assure qu'elle n'était pas obligée s'agissant de ses enfants. Dans l'actualité aussi, les perturbations précisées à la RATP avant la grève de jeudi. La moitié des lignes de métro seront fermées. Et puis désormais, 2,3 milliards de dollars. Où s'arrêtera la cagnotte de la super loterie américaine? Aucun gagnant à l'issue du tirage hier.
La tendance météo demain, Peggy.
Une perturbation pluvieuse du sud-ouest aux frontières de l'Est et des pluies soutenues et orageuses vers la vallée du Rhône.
Merci Peggy.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
Et les dessous des États désunis. C'est un pays fracturé qui vote en ce moment même. Ce sont les midterms, les élections de mi-mandat, le match retour en quelque sorte entre Joe Biden et Donald Trump. Les Américains renouvellent aujourd'hui une partie du Congrès dans une atmosphère très pesante. Bonsoir Lionel Gendron.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous êtes à New York pour RTL et pour mesurer la tension qui existe chez vous, il faut préciser à nos auditeurs que la campagne a été marquée par des menaces de mort, des intimidations en série.
Oui, vous l'entendre dire, ça paraît fou, hein, mais c'est vrai. Des milliers de menaces, plusieurs centaines jugées crédibles par le FBI. Elles visent des élus ou des fonctionnaires électoraux qui ont validé la victoire de Joe Biden. Je sors d'un bureau de vote et une employée électorale me disait qu'il ne fallait pas être paranoïaque, mais c'est dans un coin de la tête. Et il y a 10 jours, il y a eu aussi l'agression de Paul Pelosi à coups de marteau. L'homme voulait s'en prendre à sa femme, Nancy Pelosi, la chef de la Chambre des représentants. Autre exemple inquiétant, ces hommes armés en Arizona à proximité de points de vote anticipés, soi-disant pour vérifier que tout va bien.
Est-ce qu'il faut s'attendre d'ailleurs à des élections à rallonge avec des résultats qui seront contestés quand ils vont tomber ?
Oui, parce que les Républicains ont déjà déposé plusieurs recours pour disqualifier les votes par correspondance. On peut voter par anticipation aux États-Unis. 40 millions d'électeurs l'ont déjà fait. Et traditionnellement, il y a plus d'électeurs démocrates qui votent par anticipation que d'électeurs républicains. Et les contestations vont se poursuivre si les résultats sont serrés. Avant même le vote, des Républicains ont dit qu'ils contesteraient le résultat s'il est à leur désavantage, bien sûr.
Ces résultats, d'ailleurs, ils vont tomber quand, Lionel ? Quand saurons-nous dans les prochaines heures si Biden a encore une majorité pour gouverner ?
Alors, il y aura des tendances fortes demain matin, mais les résultats définitifs, non. Déjà, les bulletins sont plus complexes qu'en France. On vote pour le Congrès, mais aussi pour des shérifs, les représentants de la justice. Il y a aussi des référendums sur l'avortement, le contrôle des armes ou sur la vie locale. Et puis, Joe Biden et les Américains pourraient attendre en fait des jours, voire des semaines pour la composition du Congrès en raison d'un poste de sénateur en Géorgie. Dans cet État, si aucun des trois candidats n'obtient 50% des voix, eh bien, il y aura un deuxième tour le 6 décembre. Et comme le Sénat pourrait se jouer à un ou deux sièges, eh bien, il faudra peut-être attendre jusqu'à cette date.
Les dessous des midterms sous tension donc aux États-Unis. Merci Lionel Gendron à New York pour RTL.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
18h35 minutes.
Laissez-vous tenter dernière.
Et laissez-vous tenter dernière avec du cinéma maintenant et un événement s'il vous plaît. Alors non pas la venue dans ce studio de Stéphane Boutsov, quoique, bonsoir.
Bonsoir
Stéphane. L'événement c'est la sortie demain mercredi d'un des films les plus attendus de cette fin d'année. Wakanda Forever, la suite de la saga Black Panther. Avant d'en parler Stéphane, revenons sur le phénomène du premier film, c'était il y a 4 ans.
On parle tout simplement du 14e plus gros succès de toute l'histoire du cinéma. Quelques chiffres, 1 milliard 350 millions de dollars de recettes dans le monde, 3 700 000 entrées en France pour Disney et Marvel. Une formidable affaire financière et sur le fond une avancée de taille. Black Panther, comme son nom l'indique, c'est le premier super-héros noir à avoir droit à son film sans être le faire-valoir. Le personnage principal, c'est le prince T'Challa, héritier de la couronne du Wakanda, royaume africain longtemps caché aux dieu du monde, qui possède en son sol un trésor, un métal indestructible qui s'appelle le vibranium.
Voilà, ce premier film, donc un carton. On imagine donc qu'une suite a été très vite mise en chantier, sauf que le 28 août 2020...
Le cinéma mondial en deuil. On a appris cette nuit la disparition de l'américain Chadwick Boseman, acteur principal du film de super-héros Black Panther.
La mort donc de l'acteur principal de Black Panther aurait pu sonner le glas de la saga, hein, Stéphane.
Oui, parce que le scénario était prêt. Le réalisateur Ryan Coogler l'avait fait lire à Chadwick Boseman. Il a donc fallu tout revoir. Idée simple, faire de Shuri, la sœur de T'Challa, la nouvelle héroïne de l'histoire. Dans ce numéro 2, c'est elle qui va endosser le costume de Black Panther et affronter le roi d'un autre peuple oublié, descendant des Mayas, vivant sous la surface de l'eau.
Alors ça, c'est le contexte. Mm-hmm. Question simple maintenant, Stéphane. Vous qui l'avez vu, c'est comment Wakanda Forever ?
Franchement, c'est une réussite malgré quelques effets spéciaux assez moches et sans doute un quart d'heure de trop sur les 2h41 du film quand même. On y retrouve tous les ingrédients du genre avec en plus une dimension émouvante qui traverse tout le film. On y parle de deuil, de pardon, de cette vengeance qui n'efface jamais la peine. Et puis, niveau sociétal, on a désormais affaire à une super-héroïne noire incarnée par Letitia Wright. À tout final, la chanson du générique de fin qui marque le retour événement de Rihanna. Chanson du générique de Wakanda Forever à découvrir donc dès demain au cinéma.
Merci beaucoup cher Stéphane et je précise aussi qu'on peut réécouter l'excellent podcast Focus avec Anthony Martin et vous Stéphane, consacré le podcast de la rédaction au phénomène Black Panther, c'était il y a quelques jours, c'est dispo où Stéphane ?
À retrouver sur l'application RTL et vos plateformes favorites.
Merci Stéphane et on va enchaîner dans RTL Soir avec On défait le monde, c'est la suite dans l'émission avec Cyprien Cini. Isabelle Choquet, Laurent Tessy qui eux aussi prennent place dans ce studio. Bonsoir, j'ai dit quoi ?
Bonsoir, Larissa Evany. Enchantée.
Isabelle Choquet, j'ai dit c'est la force de l'habitude. Larissa, vous me pardonnez ?
Mais bien sûr. Mais
oui,
bien
toujours. Après les propos jugés racistes à l'Assemblée ces derniers jours, qu'il retourne en Afrique, eh bien on va défaire les routes de l'exil avec vous. Comment quitter son pays ? Combien ça coûte ? Quel risque ? Comment travaillent les mafias des passeurs ? Réponds juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.